Vous écoutez Radio Nil, il est 21h passées de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous, très bonne soirée et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous culturel, nous vous proposons aujourd'hui une sélection de grands moments d'interview de nos invités enregistrés durant 2016. Une rétrospective donc qui vous permettra de réentendre le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré qui a coécrit avec un SDF parisien, Jean-Marie Rougol, un livre témoignage sur le monde de la mendicité. Vous aurez donc un extrait de cette interview au cours de cette émission. Mais vous pourrez aussi réentendre Jacqueline Kellen évoquer sa foi chrétienne et nous parler du duvet des choses, tandis que l'écrivain et essayiste engagé René Guiton, lui, nous racontera son pèlerinage à la Mecque, pèlerinage qu'il a effectué il y a quelques années à l'invitation du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Centenaire de la révolution russe d'octobre 1917 oblige, nous nous pencherons sur un livre absolument remarquable et monumental, c'est l'Histoire mondiale du communisme avec Thierry Volton que nous avions interviewé l'an dernier à Dijon et nous aurons avec cet historien et journaliste l'opportunité de réévoquer les personnalités de Staline et de Mao Tse-tung. Si vous le voulez bien, ouvrons ce 284e numéro de Wagon Livre avec Gérard Oberlé, l'écrivain bien connu qui habite dans la Nièvre voisine et que nous avions rencontré à Dijon fin mars 2016. Le romancier, dans l'extrait qui va suivre, y célèbre les vertus du vin, mais évoque aussi son ami, l'écrivain américain Jim Harrison, disparu en mars de l'an dernier. Gérard Oberlé.
Je fais partie des gens qui considèrent que le vin, c'est pas simplement une boisson, quoi. C'est autre chose. J'ai eu la chance de naître dans un territoire viticole, l'Alsace, d'avoir plus ou moins toujours vécu dans des territoires, enfin, pas loin des vignes. Là où je vis maintenant, je suis à équidistance des vignes de Bourgogne, des vignes de la Nièvre, le Pouilly, tout ça, et du Mâconnais. Donc, dans une sorte de triangle d'or, pour moi. Et ma maison, c'est des livres, des bouteilles, des chiens et des oiseaux. Voilà, si je puis résumer à peu près ce qu'est ma maison.
D'ailleurs, on sait que vous avez été très ami avec Carmet. C'était un de vos grands copains.
Oui.
Et d'ailleurs, il allait un petit peu explorer votre cave comme il explorait aussi votre bibliothèque. Hein. Bibliothèque, œnothèque se confondent, se superposent.
Oui, c'est lui qui disait toujours... Vers 5 heures du soir, il faisait ça, je vais dans ta bibliothèque, et du doigt, il montrait le sous-sol. Ouais, en effet.
Néanmoins, Gérard Oberlé, l'alcool a ruiné de nombreux écrivains américains. Je pense à l'adorable Jack London, que
oui.
Vous connaissez bien, que vous êtes un grand lecteur de Jack London, Faulkner, Hemingway.
Chandler, Jim Harrison,
oui.
Qui vient de,
alors même Jim
qui
Harrison,
vient de me quitter il y a 3 jours.
J'étais très embêté, Gérard Oberlé, c'est votre grand copain Jim Harrison. Est-ce que je peux vous inviter à peut-être évoquer quelques souvenirs de ce grand copain que vous avez reçu à Autun, chez qui vous êtes allé? Est-ce que, comme quelques jours après sa disparition?
Pendant une vingtaine d'années, on se voyait tantôt chez lui, tantôt chez moi, chaque année, pendant 20 ans à peu près. Donc, évidemment, des anecdotes, j'en aurais à foison.
Et comment avez-vous rencontré Jim Harrison?
À cause d'une bouteille. Non, mais c'est... Je l'ai raconté souvent, mais bon. Et à l'époque, je faisais partie du jury de journée de livres et du vin qui se déroulait à Saumur. Et une année, j'y suis allé avec un garçon très extraordinaire qui est un sommelier fabuleux, Bruno Cogniou, qui est d'ailleurs originaire de là-bas, un type du Chenin, donc, de ce vignoble-là. Et on était ensemble dans cet hôtel, le Prieuré, où on recevait les écrivains qui participaient à ça. À l'époque, c'était, il y avait Rob Grillet, il y avait Pierre Tchernia, c'était très sympathique. Et avec Bruno, on en profitait pour voir les vignerons du coin, ce qui fait qu'on se levait tôt. Et on prenait notre petit déjeuner généralement à 7 heures du matin à la terrasse de ce prieuré qui donnait sur la Loire, non pas avec du café ou du thé, mais avec une bonne bouteille de vin rouge, disons un petit déjeuner viril, avec des charcuteries du coin, des choses comme ça.
Le régime charcutier.
Voilà. Et un jour, pendant ce petit déjeuner, je vois dans la brume du matin émerger un type avec une canne qui passe. Et en le fixant de loin, je dis à Bruno, dis donc, mais ça c'est Jim Harrison, l'écrivain américain. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, je suis à peu près sûr que c'est lui. Et en effet, plus il se rapprochait, plus j'étais sûr que c'était lui. Puis il passe devant nous. Et à 7 heures du matin, de voir deux citoyens attablés avec une bouteille de vin rouge, il, avec sa voix incomparable, il dit, oh boy, that's a nice breakfast. Et je lui dis, please come sit, Mr. Harrison. You know me. Mais je dis, oui, il se trouve que je connais votre œuvre et tout ça. Si ça vous fait plaisir, venez boire un coup de rouge avec nous et servez-vous. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Et des rencontres pareilles, c'est des ciments d'amitié assez durables, hein, inoxydables, si je puis dire. Ce qui fait, il partait en Espagne, il m'a dit, à mon retour, est-ce que je peux venir te voir où tu crèches? Je dis, avec grand plaisir. Donc il est venu me voir là où j'habite, près du Morvan. Et puis immédiatement, il m'a dit, cet automne, viens pendant la saison des bécasses et des grouses, viens dans le Michigan. Et ça a commencé comme ça, puis ça s'est poursuivi annuellement. Chaque fois qu'il venait en France, il faisait un séjour chez moi, et puis moi chez lui, dans ces deux résidences, aussi en Arizona. D'ailleurs, c'est là que j'ai écrit un roman qui se passe entièrement chez lui, où je l'ai mis en scène sans donner son nom. Palomas Canyon, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est entièrement Jim Harrison, et dans son décor, près de la frontière mexicaine en Arizona. Voilà. Et donc là, il vient de partir définitivement. Je suis bien chagrin.
C'était Gérard Oberlé que nous avions alors rencontré à Dijon fin mars 2016, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Puisque je parle de ce Club des écrivains de Bourgogne, sachez que le prochain invité du Club sera le directeur du Figaro littéraire, Étienne de Montetti, également écrivain, qui viendra présenter son dernier roman intitulé « L'âme en noir », paru chez Gallimard. Nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. C'est Wagon Livre, petite escale en musique. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
L'année 2017 marquera le 50e anniversaire de la mort de la poétesse Marie Noël. Ce samedi 18 février, à 17h30, à la salle de conférence de la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, rue Marie-Noël à Auxerre, vous pourrez assister à des lectures de Petit Jour. C'est une œuvre de Marie-Noël, une œuvre en prose, lecture proposée par Daniel Pangrazi, Jean Guy Bègue et Alain Grivel. Nous consacrerons d'ailleurs un numéro de Wagon Livre à celle qu'on appelle la demoiselle d'Auxerre, Marie-Noël, qui nous a quittés en 1967, il y a donc 50 ans. Et le 22 mars prochain, dans Wagon Livre, nous aurons l'occasion d'évoquer la vie et l'œuvre de Marie-Noël, notamment avec la petite nièce de la poétesse, à noter donc le 22 mars prochain dans Wagon Livre sur Radion. En janvier 2016, Jean-Louis Debré était encore président du Conseil constitutionnel et venait de coécrire un livre témoignage avec un SDF, Jean-Marie Rougol. Le livre s'intitulait « Je tape la manche » et racontait l'univers de la mendicité vécu par Jean-Marie Rougol, 47 ans. Jean-Louis Debré, à notre micro.
Il fallait que ce soit le livre de Jean-Marie.
Oui.
Donc, je dis, vous avez un cahier, vous allez écrire ce qui vous passe par la tête. Et puis on verra ensemble. Alors, il m'a écrit un cahier, et puis on s'est mis à tourner. Et je l'ai fait parler. Alors, il y a eu des moments très difficiles. Quand je lui disais, par exemple, Jean-Marie, vous avez été dans la rue, vous êtes dans la rue, vous avez eu des problèmes avec la justice. Non, non, non. Et hop, il disparaissait, je ne le voyais plus pendant 15 jours. Et je disais, moi, les choses sont claires. Vous me dites tout.
Mais vous avez douté parfois de sa sincérité.
Oui, mais dites tout, et vous ne me cachez rien. Après, on verra à la relecture s'il faut enlever des choses, ça vous gêne. Mais moi, je ne écrirai pas votre histoire si vous ne me cachez des choses. Et il a fallu le convaincre. D'autres, parfois, il m'avait ramené un cahier où, sur 10 pages, il me racontait l'émission Super Nanny. J'en ai rien à foutre, moi, l'émission Super Nanny. Je suis désolé, rien à foutre. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de Jean-Marie, et non pas cette émission. Et ça, il ne voulait pas en démordre. Je dis, mais Jean-Marie, que vous n'allez pas me raconter pendant 10 pages cette histoire de Super Nanny dont je n'ai rien à foutre. Je connais même pas cette émission.
Ah bon?
Non. Je regarde pas la télévision. C'est aujourd'hui, j'ai mon téléphone portable, j'ai des pages d'AFP, je regarde très peu la télévision. Et en tout cas, pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais lui, il ne voulait pas en démordre. Et là, on s'est fâché. J'ai dit, allez, on arrête. Voilà, si c'est pour refaire un journal où vous allez regarder l'émission et vous allez me parler du tiercé, mais j'en ai rien à foutre du tiercé. Qu'est-ce que ça peut me foutre que le numéro 2 soit arrivé en tête ou que le 3 soit tombé à la première... Ah oui, mais je joue au tir. Non, mais je m'en fous. Après, il voulait me raconter le loto. J'en ai rien à foutre du loto. Ouais. Bon, voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, je disais, c'est votre vie. Comment est-ce que vous avez vécu dans la rue? Quels sont les rapports que vous avez avec les Roms, avec les trucs, avec les machins chouettes, les gens qui vous engueulent?
Les rats, le métro,
etc. La vie dans le souterrain, la nuit, dans les escaliers d'immeubles. Ça intéresse. Le reste, ça... Donc, ça a pris 4 ans. Hein. Ça a pris 4 ans. Donc, la notion du temps chez Jean-Marie et chez moi n'est pas la même. Moi, j'étais impatient. Je trouvais que j'avais un bon sujet, que cette rencontre entre le président du Conseil et un SDF parlant de la vie dans la rue pouvait être intéressant. Deuxièmement, que ça ne soit pas simplement des personnages qui n'ont rien à dire qui fassent écrire des livres sur eux, et que le président du Conseil soit la plume d'un SDF. C'était, je trouve, un sujet intéressant, une approche intéressante. Donc j'étais impatient. Et lui, il a l'éternité pour lui. Et donc, de temps en temps, je ne le voyais plus pendant 15 jours. Il boudait. Et puis, il revenait. Et à ce moment-là, il avait du mal à comprendre que moi, j'avais pas que ça à faire. Et donc, voilà. Et puis, il avait une faculté d'attention qui n'était pas très, très grande. Et c'est amélioré. Vous vivez dans 20 ans dans la rue. La seule préoccupation que vous avez, c'est d'abord de savoir si la dame ou le monsieur qui est devant vous va vous donner 5 euros ou rien du tout. Deuxièmement, à partir de midi et demi, où est-ce que vous allez pouvoir, qui va vous filer dans la rue une pizza, ou est-ce que vous allez avoir assez d'argent pour acheter un burger ou un sandwich au... Est-ce que vous allez avoir assez d'argent pour boire 15 cafés par jour pour vous réchauffer? Est-ce que vous, à partir de 18h, 19h, où est-ce que vous allez pouvoir vous à nouveau procurer un sandwich? Et puis enfin, où est-ce que vous allez coucher cette nuit? Et surtout, est-ce que le lieu où, comment est-ce que vous allez préserver le lieu où vous faites la manche? Car si l'endroit est un endroit intéressant et qui est rentable, des appétits vont arriver. Et il faut se défendre. Et dans ce milieu-là, il le dit, si vous ne tapez pas le premier, vous êtes mort. Donc c'est ça leur sujet de préoccupation. Et tout d'un coup, vous avez un président du Conseil constitutionnel qui dit on va d'abord retourner sur votre enfance. Bon. Et après, on va essayer de raconter au quotidien votre vie. Ben, ça a été difficile, compliqué, la patience. Et puis, une fois que j'ai tout réécrit, je lui ai relu dans une séance, plusieurs séances de lecture, où puisque je voulais que ce soit son livre, je relisais, je disais, Marie, vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit? Je vous ai écouté, j'ai écrit ça. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Écoutez-moi, Jean-Marie. Alors, si on prenait un café, là, t'as Jean-Marie, avant de prendre un café, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit ça. Et alors, elle me disait ça, de temps en temps, elle me disait, non, je ne suis pas d'accord. Ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne sais pas, mais... Donc voilà, ça a été un travail d'écriture collective, à deux, très intéressante, mais nous n'avions pas la même notion du temps.
À l'instant, c'était Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre, auteur donc avec Jean-Marie Rougol de « Je tape la manche », sorti aux éditions Calman Lévy en octobre 2015. Nouvel intermède en chanson et nous nous retrouvons bien sûr juste après pour la suite de votre émission littéraire « C'est Wagon Livre » sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en
L'année 2017 va être une année très riche en anniversaires. Ce sera cette année le 150e anniversaire de la mort de Baudelaire, le 100e anniversaire de la mort d'Octave Mirbeau, le 40e anniversaire de la mort de Jacques Prévert, le 50e anniversaire de la mort de la demoiselle d'Auxerre Marie-Noël, mais c'est aussi, et vous le savez, le centenaire de la Révolution russe d'octobre 1917. En mars 2016, nous avions reçu devant notre micro le journaliste Thierry Volton qui signait chez Grasset un essai d'investigation historique intitulé « Une histoire mondiale du communisme, le récit de la plus grande aventure politique du XXe siècle ». À l'heure actuelle, sachez que 1/5 de la population mondiale reste soumis par des régimes qui se réclament du communisme. Au cours de l'entretien avec Thierry Volton, que nous allons vous proposer en rediffusion, l'essayiste revenait sur le goût prononcé des chefs communistes pour le cinéma. Thierry Volton.
C'est une particularité des dictateurs communistes, ils adorent le cinéma. Alors peut-être que parce qu'ils sont en train de faire un cinéma eux-mêmes, hein, je ne plaisante pas, c'est peut-être un espèce de double miroir, comme le pays est une fiction, parce qu'on dit que c'est merveilleux, tout va très bien, etc., que les gens sont en vérité vont très mal, hein, il y a des chiffres formidables de production, etc., mais les gens vont très mal, donc on est dans une espèce de gigantesque fiction en ce qui concerne le communisme. Alors peut-être que, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je n'ai pas abordée dans mon livre, mais je viens d'y penser à la seconde, peut-être que à travers le cinéma, c'est-à-dire la véritable fiction qu'est le cinéma, ils se retrouvent quelque part dans leur propre fiction, quelque part.
En tout cas, il est évident que les dictateurs ont utilisé l'image, le cinéma, pour leur propre notoriété et pour, disons, établir continuellement leur pouvoir. Alors, Staline était un homme très petit, 1m62, vous dites même qu'il a le pied gauche palmé, et puis sur le visage, il avait des traces de variole. Staline est un être tout de même redoutable. À un moment, vous écrivez que Staline croise au Kremlin, dans un corridor, un de ses ministres et lui dit « Je vais te tuer ». Il le croise 2 jours plus tard et il lui dit « Tu n'es toujours pas fusillé ». Cet homme est monstrueux, mais monstrueux.
Oui, mais vous voyez, je suis content que vous ayez cité cette anecdote parce qu'elle est quand même effectivement assez incroyable sur le comportement de Staline. Mais en même temps, alors ça va vous paraître absolument incroyable parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de dire ça et je le dis encore aujourd'hui. De tous ces dirigeants communistes qui ont été très, très, très inhumains, finalement, justement, à cause de ce côté un tout petit peu, je dirais, ironique, blagueur, etc., et puis ce côté travailleur de Lénine, de Staline, de tous ces dirigeants-là, même si c'est celui qui est resté dans l'histoire comme le pire, quelque part, je dirais que c'est pas forcément le pire. Pour moi, le pire de tous, sans aucune exception, c'est Mao Tse-tung. Parce que Mao Tse-tung, il n'a pas ce côté bonhomme, même si c'est un bonhomme très méchant, hein, mais il n'a pas c'est que Mao Tse-tung, c'est quelqu'un de perfide, de traître. Il va vous passer la pommade dans le dos et crac, il va vous donner un grand coup de couteau immédiatement après. C'est quelqu'un qui n'a jamais été franc du collier, qui a toujours louvoyé et qui est arrivé à ses fins et à quel prix, puisque le nombre de morts est considérable.
Staline aime tout de même les complots, il a une nature comploteuse, et puis ce qui apparaît chez lui, c'est sa violence, et pas seulement verbale.
Bien sûr, mais le complot fait partie du monde communiste, parce que c'est un monde très paranoïaque, parce que ce qui est important dans le communisme, il y a 2 choses qui sont importantes. L'idéologie et le pouvoir. L'un va avec l'autre, évidemment. C'est-à-dire que l'idéologie, personne ne doit la contester. Hein, c'est pour ça qu'à partir de 1921, Lénine met en place une règle en disant « il y a la loi du parti et personne n'a le droit de outrepasser cette loi, on n'a pas à faire des fractions, des réunions de tendance, c'est interdit, le parti décide et vous suivez d'un seul bon. Ça, c'est l'idéologie. Et il y a le pouvoir. Le pouvoir est important. Le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir ne peut pas se partager. Sinon, c'est fini. Vous n'avez plus de système totalitaire. Hein. Donc, le pouvoir ne peut pas se partager. Comme le pouvoir ne peut pas se partager, vous êtes obligé de faire très attention à qui peut vous prendre la place. C'est aussi bête que ça. Hein. Donc, c'est un système qui va... Mais ce que je dis du numéro 1, il est vrai du numéro 2, il est vrai du directeur de cellule, etc. Ça descend dans toute la hiérarchie, tout ça. Hein. Parce que tout le monde rêve de prendre le pouvoir quelque part. Donc, le système en lui-même développe considérablement cette paranoïa, et développant cette paranoïa, vous avez des complots à tire-larigot. Je veux dire, chacun essaie de se dégommer. Alors, en général, c'est celui d'en haut qui arrive à dégommer tous les autres, mais quand même, c'est vrai que c'est un système très, 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 très comploteur.
Peut-on dire, Thierry Volton, que Staline a régné avec aussi la crainte d'être renversé, la crainte d'être trahi? Est-ce qu'il a eu peur dans sa vie, Staline?
Oui, il a eu peur au moins un moment dans sa vie, puisque je le raconte dans... C'est une très belle anecdote, d'ailleurs. 22 juin 1941, comme vous le savez, l'Allemagne nazie entre en guerre contre l'Union soviétique. Jusqu'à présent, il y avait un pacte entre Moscou et Berlin. Bon, ce pacte est rompu par l'Allemagne. Et Staline est complètement dépassé par les événements. Il ne s'y attendait pas. On lui avait pourtant donné tout plein d'informations. Il ne s'y attendait absolument pas. Et il s'en va dans sa datcha, qui est à quelques kilomètres de Moscou. Et pendant 8-10 jours... Le pouvoir flotte un peu. Voilà. Et quand même, le bureau politique se réunit. On ne va pas rester comme ça. On va aller voir Staline. On va constituer un commandement général. Et on va lui donner le commandement. Parce que c'est normal. C'est le numéro 1. Voilà. Donc ils arrivent. Cette anecdote est racontée dans mon livre. Ils arrivent dans sa datcha. Et Staline, à ce moment-là, a peur. Parce qu'il est absolument convaincu qu'il vient de l'arrêter. Il est absolument convaincu. Et quand Molotov, qui est le numéro 2 du régime, lui dit « Camarade Staline, nous avons décidé de constituer un commandement général, et bien sûr, tu en prends la direction », Staline revit. Mais il était vert comme quelqu'un qui était sûr qu'on allait l'exécuter dans les heures qui viennent. Donc il a eu peur à un moment donné.
Le journaliste Thierry Volton à l'instant pour sa monumentale « Histoire mondiale du communisme » parue en 2 tomes chez Grasset. Le tome 1 a pour titre « Les bourreaux », le tome 2 « Les victimes » et le 3e et dernier tome, toujours chez Grasset, sortira en septembre prochain et sera consacré aux complices, c'est-à-dire qu'il abordera les communismes non au pouvoir, français et italien notamment. Mais le 3e tome s'intéressera aussi aux hommes d'affaires, à l'attitude des intellectuels et des hommes politiques qui ont cru en cette idéologie. Place à la musique, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. Rétrospective 2016, les grands moments de votre émission littéraire. C'est ce soir, 15 février. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Devenir un gris.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Et si vous avez manqué le début de cette émission, vous pourrez la retrouver dès demain matin, disponible à l'écoute sur le site d'archives de notre émission via internet www.yannickpetit.fr. Dans un livre d'entretien paru chez un éditeur suisse protestant, Labor et Fides, Jacqueline Kellen, agrégée de lettres classiques et ancienne productrice d'émissions à France Culture, elle a publié plus de 30 ouvrages consacrés aux grands mythes et aux figures mythiques. Eh bien, Jacqueline Kellen se révélait et se dévoilait dans ce livre d'entretien intitulé « Sois comme un roi dans ton cœur ». Elle y évoque notamment sa quête de la beauté et du divin. Jacqueline Kellen qui nous dit qu'elle se sent avant tout chrétienne plutôt que catholique.
Je me sens chrétienne. Bon. Or, il se passe, j'ai été élevée dans la religion catholique et cela me convenait parce que il y avait cette foi qui m'était donnée. Je ne peux pas dire autrement, je n'ai pas cherché, ça m'était donné à l'enfance comme cela, pas par mes parents, mais directement par le ciel, je ne sais pas. Et comme l'école religieuse où j'étais élevée était garder toute la beauté des rites, toute la solennité des rites avec l'encens, les fleurs, etc. Moi, ça me convenait tout à fait. Bon, il y a cette beauté qu'on a un petit peu oubliée. Voilà. Et alors après, les années venant, je ne sais pas pour quelle raison, mais il est certain que non seulement je me suis quelque peu éloignée de la pratique, mais donc c'est ça que j'ai un peu raconté d'ailleurs dans le livre auquel vous faisiez allusion sur la religion. Ce n'est pas pour parler de moi, mais pour dire que le message transmis la plupart du temps par l'Église catholique, du moins par ses clercs, par son clergé, et d'une pauvreté quand même affligeante. Bon, ou d'un infantilisme affligeant. Alors, il ne s'agit pas de dire on est supérieurement intelligent, mais tout de même, il faudrait, nous ne sommes pas des enfants, et il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus de profondeur dans les homélies ou dans la pratique. Voilà, c'est ça que je souhaitais dire. Donc, c'est pour cette raison que, entre autres, je me suis éloignée, et aussi pour des raisons qui ne sont pas féministes. Je n'ai jamais été féministe, mais j'ai aussi une haute idée de la mission de la femme comme de la mission de l'homme, et de voir que ça continue encore, que tout ça se passe entre hommes dans l'Église catholique, donc je me sens totalement ailleurs. Apparemment, ça ne me concerne pas. Voilà, donc c'est une des bonnes raisons pour lesquelles, voilà. Et je fréquente souvent des orthodoxes, et ce que j'aime dans l'orthodoxie, qui me semble en effet très proche du message primitif du christianisme, il y a en effet encore ce goût de la beauté, ce sens de la symbolique, cette présence de l'Esprit-Saint. Voilà, ça me touche. Quant au protestantisme, je le connais un peu par justement les amis suisses ou ceux qui m'invitent en Suisse, et autant que je puisse en juger, hein, parce que je n'ai pas lu tous leurs grands auteurs, mais il y a en effet aussi une sorte de sécheresse, il y a une grande intelligence des textes, une importance donnée à la parole, mais il peut y avoir aussi une sorte de sécheresse dans la liturgie, et surtout moi j'ai beaucoup discuté, c'est par rapport à cette dureté de la destinée selon le protestantisme. Si j'ai bien compris, j'ai beau m'efforcer, la mystique n'existe pas pour eux, alors que Luther était d'abord un grand mystique, mais j'ai beau m'efforcer, j'ai beau être vertueux, etc., rien ne dit que je serai sauvé. Enfin, il y a quelque chose de terrible quand j'ai compris ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, je ne me sens pas protestante au sens, il me semble, moi, que la mystique, en effet, et cette voie amoureuse, voie de l'absolu et voie amoureuse, qui fait que, oui, en effet, comme le pensent aussi les orthodoxes, l'être humain est appelé à être divinisé, c'est-à-dire à participer à la vie même de Dieu. Et ça, ça me convient beaucoup plus.
Ce qui est intéressant, ce sont les questions sur votre enfance, où effectivement vous dites que vous aviez très petite déjà une inclination merveilleuse, et j'ai relevé...
Comme beaucoup d'enfants,
mais vous quand même. Parliez, oui. Bon, je sais que vous parlez toujours aux plantes, aux insectes...
Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui.
À votre chat.
Ah ben le chat, oui, ben oui, le chat. Non, mais je parle, oui, les plantes, les fleurs. Oui, mais ça fait partie. Je pense que nous l'avons tous, cet esprit d'enfance. Malheureusement, on ne limite à l'enfance. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'à 5 ans ou 10 ans. Mais cet esprit d'enfance qu'il y a dans les contes, justement, c'est que tout mérite notre attention, tout mérite des égards, et au moins tout mérite aussi notre tendresse. Et quand on voit dans les contes l'enfant qui, ou le petit héros, il rencontre un arbre, il parle à l'arbre, et bien sûr l'arbre répond, il va s'adresser aux étoiles, et bien sûr que les étoiles vont répondre. Donc ça fait partie, c'est-à-dire que ce n'est pas animiste, c'est avoir une conscience, je parle pour l'esprit d'enfance, une conscience cosmique, c'est-à-dire que tout vit. Il n'y a pas que nous, hommes, êtres humains, admirables, qui avons droit à la conscience, à la sensibilité, etc. Je pense que tout est animé profondément par cette force cosmique qui s'appelle l'amour.
D'ailleurs, vous le dites, effectivement, oui, tout vit et tout a immensément besoin d'amour. Et vous avez cette autre formule, il faut préserver le duvet des choses. C'est très beau, ça, préserver le duvet des choses.
Oui, oui, alors ça c'est... Alors, je me souviens d'un ami qui se moquait de moi parce que, je ne sais pas y résumer mais mon vocabulaire... Mon langage en disant, alors il y avait le dufteux et puis il y avait un autre terme qui était beaucoup plus violent, qui était plus cruel, mais je ne me souviens plus. Mais oui, le dufteux, mais ça fait partie, je pense, de l'enfance ou de la douceur des choses. Le dufteux, eh bien je vais vous dire, c'est ce fruit magnifique, ce fruit d'or qui s'appelle le coin, le duvet des coins, ces fruits d'or. Bon, le dufteux, ben, je l'ai encore caressé il n'y a pas très longtemps, dans un bouquet. Des amis, des voisins amis m'avaient offert un bouquet de fleurs, mais ça doit remonter à plus d'un mois, un mois et demi, et il y avait deux branches, des chatons, ce qu'on appelle des chatons de noisetier. Et étonnamment, ces chatons de noisetier perdurent depuis 2 mois au moins, et donc à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de caresser le duvet des chatons. En effet, donc oui, il y a cette douceur, cette fragilité à préserver qui est la vie même. Alors bien sûr, ne parlons pas du pelage des chats. Et alors ça, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je trouve ça merveilleux, en plus c'était comme par hasard la Saint-François d'Assise, je m'en suis aperçue après, un petit oiseau aussi qui était un peu comment dire, un peu coincé dans une entrée de maison, qui n'arrivait pas à partir, et j'avais peur qu'il se cogne contre une vitre, et je ne sais pas, spontanément j'ai réussi à le prendre, enfin le prendre dans les mains, et quelle merveille de caresser un oiseau. Voilà, c'est ça le duvet des choses.
Si vraiment vous voulez approfondir les réflexions de Jacqueline Kellen, à la fois sur la beauté, sur la foi, sur la vie spirituelle, eh bien vous vous procurez le livre d'entretien que Jacqueline Kellen a accordé à Anne Ducroc. Ce livre est sorti en 2015 aux éditions Labor et Fides, et il a pour titre « Sois comme un roi dans ton cœur ». Je rappelle que, en ce qui concerne l'intégralité des références des ouvrages dont il a été question ce soir, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous les retrouvez dès à présent sur notre site d'archives via internet sur le www.yannickpetit.fr. Dernière petite pause musicale de l'émission et on se retrouve juste après avec un extrait d'interview de René Guiton qui nous parlera de son pèlerinage à la Mecque il y a quelques années à l'invitation du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Très bonne soirée sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous allons terminer la rétrospective 2016 de Wagon Livre avec l'écrivain et essayiste engagé René Guiton. Courant avril 2016, René Guiton a fait paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de l'Orient. Nous l'avions rencontré à Dijon pour un entretien qui a été diffusé sur l'antenne de Radion début juillet 2016. Et dans l'extrait que vous allez entendre, René Guiton raconte le pèlerinage qu'il a effectué à la Mecque à l'invitation du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. René Guiton.
En effet, j'ai été invité par le roi Abdallah, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, Abdallah d'Arabie Saoudite, à ne pas confondre avec Abdallah de Jordanie. Et j'ai été invité parce que je menais des travaux autour de la symbolique qui est commune aux trois religions monothéistes, qui est la symbolique d'Abraham. Abraham, selon les trois traditions, est le premier à qui Dieu est apparu. Noé a entendu Dieu lui donner des ordres de bâtir son arche, etc. Mais Abraham, lui, non seulement l'a entendu, mais Dieu lui est apparu, si on en croit les Écritures. Et donc, je travaillais autour de cette symbolique à travers les différentes écoles, universités, etc. D'abord en France, puis ensuite en Orient. Et il me manquait l'épisode de l'islam. Dans le Coran, vous pouvez acheter un Coran n'importe où, encore faut-il savoir le lire et surtout être accompagné, comme tous les livres sacrés. Il vaut mieux être accompagné de quelqu'un qui a la culture de ce livre sacré, et pour le Coran aussi donc. Mais en dehors des 22 occurrences qui abordent la question d'Abraham, Ibrahim, le pèlerinage de la Mecque est entièrement dévolu et attribué à Abraham. À savoir que la Kaaba, il aurait construit la Kaaba, cette maison noire, avec l'aide de son fils Ismaël, son premier fils, qu'il a eu de sa concubine Agar, car lui, il était marié à Sarah. Tous les trois, Abraham, Agar et Ismaël, se retrouvent dans le désert de ce qui est l'Arabie d'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, et en fait arrive dans un lieu où il y avait déjà un pèlerinage, historiquement, et sans sens religieux. C'est-à-dire que dans cette Kaaba, dans cette maison noire carrée, il y a une alvéole, pas très grande, en argent, et dans cette alvéole est posée une pierre noire, petite, grosse comme mon poing, grosse comme un poing. Et a priori, ça peut être une météorite. Et donc, depuis la nuit des temps, les hommes venaient se prosterner devant cette météorite. Et c'est bien plus tard, avec Abraham, que ça devient un lieu saint, et bien plus tard, avec l'islam et le prophète Mahomet, que ça devient un lieu de pèlerinage religieux, cette fois, et le cœur du saint des saints de l'islam. Et donc, oui... J'ai été invité pour les raisons que je vous ai exposées, et puis avec des arrangements avec le ciel, je dirais, et avec le roi. Et j'ai voulu, et j'ai tenu, et on m'a invité à le faire, à réaliser et effectuer ce pèlerinage comme un pèlerin musulman. En fait, j'ai donc pratiqué tout ce que pratique un pèlerin musulman. J'étais habillé en pèlerin. J'ai cueilli des pierres à Muzdalifa que j'ai jetées comme tout bon pèlerin devant les stèles qui représentent Satan, Shaitan, qui s'est dressé à trois reprises devant Abraham lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils comme preuve de dévotion, d'obéissance. À ce moment-là, Satan s'est dressé sous la forme d'un vieil homme sage devant Abraham en lui disant « Tu ne vas pas aller tuer le fils, ton fils, le sang de ton sang, la chair de ta chair, etc. » pour le faire désobéir à Dieu. Mais Abraham l'écarte, continue, et cette représentation de ce Satan se dressant donne lieu à des jets de pierre de la part de la foule qui veut chasser, comme l'a fait Abraham avec des pierres, veut chasser le Satan de son passage, selon la tradition de l'islam.
C'était à l'instant René Guiton à notre micro. Je rappelle les titres des récents ouvrages de René Guiton, Blessure d'Orient. C'est chez Galahad Éditions. C'est un récit émouvant porté par le voyage, les rencontres et les anecdotes, sorte de pérégrination tout au long du Tigre et de l'Euphrate. René Guiton nous raconte dans ce texte original et inédit ce que fut cette région qu'il aime passionnément et qui a tant de choses à nous apprendre malgré la violence qui s'y déchaîne. C'est donc des étapes, des escales à Alep, Damas, Palmyre, Marie, Mossoul, Ninive, Bagdad, Babylone, Ur, ces blessures d'Orient. C'est aux éditions Galahad sous la plume de René Guiton, dont on mentionnera également le dictionnaire amoureux de l'Orient aux éditions Plon. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Radion et d'être venu à mes côtés sur les banquettes de Wagon Livre. Je vous rappelle un événement local autour du 50e anniversaire de la mort de Marie Noël. Cela se passe ce samedi 18 février à 17h30 à la salle de conférence de la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, rue Marie Noël à Auxerre. Vous pourrez assister à des lectures de Petit Jour, c'est un texte en prose célèbre de Marie Noël, des lectures proposées par Daniel Pangrazi, Jean-Guy Bègue et Alain Grivel, illustrations musicales à l'harmonica classique par Jean-Claude Lavergne. Si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez en prendre au 03 86 51 30 02, 03 86 51 30 02, samedi 18 février, 17h30, commémoration autour de l'œuvre de Marie Noël. Nous consacrerons d'ailleurs un numéro de Wagon Livre à Marie Noël le 22 mars prochain sur Radion, notamment avec la petite nièce de la poétesse qui sera devant notre micro. Rendez-vous mercredi prochain, 22 février à 21h, avec le journaliste d'investigation Bernard Lecomte pour « Les secrets du Kremlin » paru en octobre dernier aux éditions Perrin. Nous reviendrons avec notre invité sur le rôle de Rasputin auprès de la famille du tsar Nicolas II, sur l'abdication du tsar, sur la prise du pouvoir par le bolchevique Lénine en octobre 1917. Nous reviendrons aussi sur le massacre de la famille impériale en juillet 1918, sur la mort de Trotsky, éliminé par Staline et assassiné à Mexico en 1940. Et puis, ce sera très intéressant avec Bernard Lecomte de faire le point sur les relations entre la France et l'Union soviétique, entre De Gaulle et Staline, entre François Mitterrand et Gorbatchev dès 1985. Et bien sûr, nous nous intéresserons avec Bernard Lecomte au passé de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est l'émission, et c'est au contenu de l'émission de mercredi prochain, 22 février à 21h sur Radion 90.5 dans le département de Lyon, aux quatre coins de la Bourgogne, de France, d'Europe et du monde, via Internet en direct sur le www.radion.fr. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.